mon intervention d'aujourd'hui, elle va porter plus sur des aspects plutôt techniques de l'élevage, en particulier de l'élevage de tourmenteuse. Et avant, je fais une petite présentation générale pour replacer où se situe L214 et pourquoi cette thématique arrive ici, etc. L214, c'est une association qui existe officieusement depuis 2003 sous le nom de Stop Gavage, initiative citoyenne pour l'abolition du foie gras, et qui s'est transformée en L214 en 2008 quand l'équipe a décidé d'étendre sa problématique à l'ensemble des animaux d'élevage. Stop Gavage, ça ne correspondait plus comme nom à cette thématique, et donc on a choisi L214 qui fait référence à un article du Code rural qui dit que les animaux sont des êtres sensibles. Au départ, on avait cherché à se rapprocher d'autres associations, mais en fait, on a des spécificités qui ne se reconnaissent pas dans d'autres associations. Et la collaboration n'a pas pu se faire, une intégration n'a pas pu se faire à l'autre. Donc L214 se pose comme association sensibiliste d'après son nom, puisque L214 du Code rural commence parce que les animaux sont des êtres sensibles. Et à partir de cette reconnaissance, et on essaie de monter des actions, des campagnes, et d'avoir un discours qui soit non spéciste. Alors bien sûr, on est tous imprégnés du spécisme, c'est-à-dire cette discrimination basée sur le fait que d'un côté il y a les animaux et de l'autre côté il y a les animaux humains. Et en essayant d'être non spéciste, essayer de casser cette barrière de ce qu'est le spécisme. C'est aussi une association de protection animale qui va faire des campagnes sectorielles pour essayer de rendre moins pires les conditions d'élevage des animaux dans les élevages, les transports et les abattoirs. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que L214 se focalise essentiellement sur les animaux qui sont élevés ou pêchés pour obtenir leur viande, le lait ou les œufs. Et puis L214 a résolument une approche abolitionniste, puisque l'objectif final, si on peut dire, est effectivement l'abandon de l'exploitation des animaux. Les actions de L214 sont diverses et variées. Elles sont à destination du public, notamment par les vidéos qui sont prises par entre guillemets nos enquêteurs et nos enquêtrices, les tables d'infos, les distributions de tracts, les pétitions, les lettres d'infos, Facebook. Elles vont vers les politiques, par des plaintes, des lettres à la Commission européenne, les copies de courrier qu'on envoie, etc. Aux distributeurs, avec les actions dans les GMS et puis aussi dans les collectivités territoriales, et puis vers les médias, avec les communiqués à la presse, les relances et les vidéos et les images à disposition.
GMS, oui.
Grandes et moyennes surfaces, c'est tout ce qui est supermarché. C'est les gros distributeurs. Les actions de L114, pour l'instant, on a développé uniquement trois grosses campagnes. Alors, on agit par campagne sectorielle, mais quand on lance une campagne, on aime bien savoir le maximum de choses sur cette campagne, c'est-à-dire avoir des images, être allé dans les élevages, transport, abattoir, et puis voir de façon concrète comment ça se passe dans les lieux. Et puis recouper avec les publications des filières ou des articles de journaux, etc. Tout ce qu'on peut trouver comme littérature autour de ce qui se passe dans les élevages, ça peut être aussi bien des recherches scientifiques que des articles de presse grand public, voir de quelle façon est perçu l'élevage, etc., les panels de consommateurs, etc. Voir, avoir une vue la plus large possible, de faire un état des lieux déjà de ce qui se passe dans les élevages. Et ça, on l'a fait sur le programme. Même avec un livre qui est sorti en 2006 qui s'appelle INRA au secours du foie gras et qui décortique les études de l'INRA concernant la production de foie gras sur les canards et les oies et qui démontre que les recherches scientifiques sont biaisées sur les lapins aussi et sur les profondeurs. On a développé aussi un petit peu plus sur les chevreaux, on a essayé d'appuyer un petit peu plus le mode de transport des chevaux qui est emblématique du manque de la réglementation par la France, et puis des actions plus ponctuelles, toujours dans les domaines de l'élevage, le transport, abattoir, avec des enquêtes de toutes les minutes, toutes les questions conduites, on a aussi défini des questions sur les abattages de bovins, etc. Et puis cette médiathèque en fait, s'enrichit au fur et à mesure des enquêtes qu'on peut réaliser. On fait des actions aussi autour de la question de l'abolition de la viande et du spécisme, avec promouvoir l'alimentation sans produits d'origine animale, en fait, par l'intermédiaire d'utiliser du pain végané, du pain de CBG, ou de, en essayant de mettre à disposition un certain nombre de données aux gens pour que, faire des choses dans le sens.
C'est quoi les GMB?
Je le répéterai pas. Alors très souvent quand on parle des animaux, là je vais rentrer un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui. Quand on parle des animaux, moi je sais que quand j'ai commencé à militer pour les animaux, j'avais en tête que les animaux étaient des êtres sensibles, qu'ils avaient des émotions, ressentent la douleur, le plaisir, qu'ils ont des relations sociales et qu'ils souhaitent continuer à vivre. Et partant de ça, on a aussi toutes les pensées éthiques, philosophiques qui font notre engagement pour les animaux. Et au fur et à mesure qu'on a avancé dans ce gavage en L214, on s'est rendu compte aussi que ce qui nous donnait de la force, ce qui nous donnait de la crédibilité, c'était d'en savoir plus. Alors pourquoi en savoir plus? Pour faire disparaître des pratiques, ça suppose de les connaître et de les faire connaître. Voilà, je veux dire, les trucs que je pense, vraiment, vous pouvez être d'accord, donc voilà, évidemment. Il faut, ça permet d'être reconnu comme interlocuteur, de créer de l'actualité autour de la question animale et de réagir à l'opportunité. De plus en plus, on est contacté par exemple par les médias pour avoir des images, pour avoir aussi notre raison d'être, on a commencé effectivement, est-ce que vraiment les lapins c'est 100% dans le cage, etc. On devient des interlocuteurs crédibles parce qu'on a posé la question. Si on en reste juste, il ne faut pas. C'est éthiquement inacceptable de découper les animaux, il manque des billes pour pouvoir intéresser les animaux qui vont construire un dossier qui ne sert pas juste à cette conclusion. Montrer la réalité de l'industrie de la viande, même pour les produits qui semblent sans souffrance. C'est souvent ce qu'on parlait de ce matin, de la viande heureuse, des élevages éthiques. Si on veut pouvoir les animaux, il faut pouvoir en parler. Et puis, partir de là où en sont les gens, pour aller plus loin, par exemple, savoir que les consommateurs sont massivement contre l'élevage en batterie, l'élevage en cage des profondeuses, ça nous permet de ne pas recommencer du début, de leur dire, vous savez, les cages, voilà, ils s'en sont déjà là. Donc partir de là et puis profiter de cet appui pour emmener les gens plus loin et essayer aussi d'emmener les petits plus loin, parce qu'ils sont même pas. Et puis il y a aussi ce côté très important qui est de provoquer l'indignation à juste titre, et donc de provoquer l'engagement des gens, de faire devenir des personnes aussi engagées, militantes, de façon à pas être seulement une poignée sur le terrain ou à pas être une poignée à lancer des actions, mais favoriser la multiplication des initiatives de façon à ce que la question animale devienne une question de plus en plus importante pour l'ensemble des sphères. Aussi bien public, politique, gros distributeurs, et puis les médias. Et puis il y a aussi des intérêts qui sont plus en dedans, j'en ai parlé un petit peu ce matin, ça c'est un extrait, la première phrase, là, la filière rejoint ainsi complètement le type de communication d'autres filières, la filière dont on parle, là c'est la filière foie gras, rejoint ainsi complètement le type de communication d'autres filières agricoles qui ne présentent jamais d'animaux en cage, mais au contraire des pastorales, des vaches battues collantes dans les prés ou encore des poules en liberté. Les consommateurs aspirent en effet à consommer les produits d'animaux ayant vécu heureux. C'est une des pierres d'angle de la consommation de produits animaux aujourd'hui et c'est en montrant la contradiction entre ces préoccupations qui est réelle des gens. Il y a très peu de personnes en fait qui ont envie de voir souffrir les animaux ou qui souhaitent être complices de souffrances infligées aux animaux et donc leur montrer cette contradiction entre leurs préoccupations des animaux et puis la question de l'élevage de l'exploitation animale. Et puis ça rejoint tout à fait les écrits fondateurs aussi, enfin, qui nous parlent beaucoup dans les écrits de L214, qui sont les écrits de Eric Marcus, Martin Matouk ou Henri Spira, qui menaient des campagnes sectorielles, mais avec cette vue à la fin de démantèlement d'un discours de la vie. Alors, on va s'intéresser maintenant sur un exemple concret, qui sont les poules pondeuses, et montrer un petit peu enfin, pas tout ce qu'on peut savoir, parce que je pense pas qu'ici on va voir tout, mais avoir quand même un certain nombre d'arguments, un certain nombre de connaissances qui vont nous permettre justement d'être plus efficaces, ou en tout cas avoir une culture générale plus importante quand on parle des animaux, en fait. Et cette notion de culture générale, elle est, à mon sens, importante. Quand vous parlez à des interlocuteurs qui vont essayer de vous emmener sur des sentiers où vous n'y êtes pas, si vous croisez un éleveur et que vous ne connaissez rien le type d'élevage que lui, il a, ben, pour lui, vous êtes un interlocuteur très bien. Alors, un peu d'histoire sur les poules pondeuses. En fait, les poules pondeuses étaient des dinosaures. Voilà, c'est des choses qu'on sait ou qu'on ne sait pas, mais voilà, c'était des dinosaures, des archéoptères qui sont, elles sont toujours ovipares, marchent sur deux pattes, et leurs pattes sont recouvertes d'écailles. Ce sont des oiseaux, on oublie souvent les poules pondeuses, mais ce sont pas seulement des poules, ce sont des oiseaux qui sont forestiers et tropicaux. C'est le grand cheval, côte dorée, qui est un petit faisan, qui vit encore de nouveau dans les sous-bois, des jungles, d'Inde, d'Indonésie et de nombreuses régions d'Asie. Donc on a un exemple très concret où on peut observer de façon intelligente comment se comportent ces animaux. Alors bien sûr, les poules, elles ont été domestiquées il y a 6000 ans et elles ont développé des comportements un petit peu différents depuis qu'elles sont au contact de l'homme, c'est un petit peu l'homme. Et l'intensification des élevages de poules pondeuses, il a eu lieu il y a moins de 100 ans. Les élevages de cages sont domestiqués pas de la même façon que pour les nages. L'anatomie des poules pondeuses, ils ont des oreillons, alors pas des oreilles, mais des oreillons quand même, et un odorat peu développé. Elles ont une très bonne vue. Alors je veux dire elles, parce que de toute façon, les coques comme les poules pondeuses, on va s'intéresser plutôt au sort des poules pondeuses, qui est un petit peu plus longue que les coques. Elles ont une très bonne vue, et vous connaissez tous le comportement des poules, elles n'auraient pas bougé la tête. Et ça pose un peu de questions. En fait, elles ont les yeux fixes, et c'est leur tête qui bouge. Elles voient les ultraviolets et les objets très petits. Elles sont omnivores, granivores, les insectes, les vers, les graines, les fruits et les baies. On peut constater que cette alimentation n'est pas celle qu'on retrouve en élevage. Elles passent la plus grande partie de la journée à rechercher de la nourriture avec leur bec et leur queue. Et ah oui, à l'époque, quand elles étaient dinosaures, elles étaient des dents. Et elles décortiquent leur nourriture avec des cailloux qu'elles avalent, qu'elles ont dans le gésier et qui leur permet de remplacer les dents qu'elles ont. Alors, l'éthologie, c'est l'étude de juste l'observation théorique de ce qui se passe dans l'observation d'une population. Alors, l'éthologie, c'est plutôt que des animaux humains. On peut s'intéresser aux animaux humains, on peut faire des collectifs. Elles vivent, et elles vivent beaucoup en bande familiale avec un coq en principe, le dominant. Une poule s'est ordonnée à peu près 80 congénères. Alors, vivre en bande familiale, c'est-à-dire qu'elles vivent très bien, la plupart du temps, hein, c'est-à-dire que leur structure tribale, leur structure plutôt tribale. Elles reconnaissent 80 congénères et elles pondent 62 par an, et là on parle du coup de elles vivent sous couvert des arbres et elles sont perchées la nuit. Elles prennent des bains de poussière tous les deux jours pendant 20 minutes, mais elles détestent l'eau. Et les bains de poussière, en fait, leur permettent de retirer la graisse accumulée sous les ailes. Et ce sont des animaux qui sont très propres, mais comme tous les animaux. Elles font des nids avec les végétaux, les fougères, la paille. Et sont... Alors pourquoi savoir tout ça? Je le dirai après, parce que je parle de elles sont en contact sonore avant éclosion entre la poule. Il y a un contact entre la poule et les poussins. Les poussins suivent leur mère partout. Être sous son aile, ça vient seulement de l'observation des poules avec leurs poussins. On ne dit pas sous son aile parce qu'ils suivent derrière, mais vraiment, ils donnent son aile dessous. Et c'est avec elles qu'ils font l'apprentissage de ce qu'ils mangent. Et l'apprentissage en fait entre les poules, il est important, il n'est pas seulement quand on est poussin, il est aussi après, si vous montrez à une poule un système pour boire, par exemple, qui est un petit peu complexe, la poule va mémoriser, en fait elle va se transmettre aux autres poules, quoi. mais ça se transmet d'individu à individu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de montrer à chacun. Et de même, il y a eu des études qui ont été faites, alors là, c'est pas l'observation, enfin, c'est l'observation, mais on a dit que c'est l'observation. Si on les met devant la télévision, elles savent s'en servir. C'est-à-dire qu'il y a des études, vous pouvez voir notamment sur le site éducation de la PNAF, ils ont mis plusieurs vidéos d'expériences d'écologie qui montrent combien les poules sont la mine. Il y a des capacités qu'on ne soupçonne pas forcément. Alors, pourquoi savoir tout ça? Parce que l'argumentation qu'on a en face de nous, c'est de dire, mais non, mais les poules, elles sont super contentes. Dans les cages, maintenant, elles ont un perchoir. Elles ont, elles n'ont pas la télévision, mais elles ont un abreuvoir. Elles ont à manger, elles ont de quoi gratter, etc. Et c'est intéressant de voir à quel point ces besoins sont importants. Ça, c'est montré que les poules sauvages et les poules domestiques, elles ont des comportements qui ne sont pas très différents, à part sur la période de ponte où effectivement les poules qui ont été domestiquées, leurs œufs, a priori, elles n'ont pas grand-chose à faire, à part quelques-unes qui ont un fort besoin de trouver, d'autres abandonnent leurs œufs. Donc voilà, mais c'est bien de connaître un petit peu tout ça pour pouvoir montrer la poule en tant qu'individu. Quelle est l'esprit si on ne peut pas tout le temps sur son dos à essayer de la faire rentrer dans le schéma d'exploitation en fait. Alors qu'est-ce qui se passe aussi? Les besoins ne peuvent pas s'exprimer. Elles développent des anomalies du comportement, notamment les mouvements stéréotypés prolongés et l'agressivité. Alors sur les poules pondeuses, les mouvements stéréotypés prolongés là, sont nommés dans la recommandation qui émane du Conseil de l'Europe. Alors on peut... on n'a pas la définition exacte de ça, c'est encore une recherche qu'on a à faire, mais notamment le lissage de poules prolongé quand elles sont en élevage parce qu'elles n'ont pas de poussière par exemple, ou il y a l'agressivité aussi qui est très très forte en élevage avec aussi des scènes de cannibalisme. Et c'est d'où les pointeurs du bec pour adapter les poules à des frustrations qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, presque toutes les poules sont issues des mêmes races qui ont été sélectionnées génétiquement pour accroître leur taux de ponte. La poule Isabrome, mise au point au centre par une race au terrain de matin, compte 300 œufs par an contre les 60 qu'on a vu avant. Il y a aussi une. Mais pour toutes les espèces, pour les poules, sur le nombre d'œufs, pour les médicaments, ça nous intéresse. Alors, à savoir que les poules pondeuses ne sont pas les poules qui sont exploitées pour faire les poulets rôtis et tout ce qui est. Préparation à base de poulet, etc. Ce sont deux souches d'animaux qui ont été sélectionnées génétiquement différentes. Celles-ci, ce sont des poules naines qui font beaucoup d'œufs. Donc elles ont été sélectionnées pour cette raison-là, c'est des poules naines, etc. On est très intelligent de tout ça. Et les poulets de chair, eux, ont été sélectionnés pour grossir le plus rapidement possible avec le moins d'enfants possible, etc. Donc ce n'était pas du tout la même finalité. Ces deux espèces, et du coup ça donne deux souches différentes qui donnent deux formes d'élevage complètement différentes. Aujourd'hui je vais parler de poules pondeuses et pas du tout de poules de chair, qui ont vraiment une vie complètement différente et bien plus courte que les poules pondeuses. Pour les poules pondeuses, les coqs ne pondent pas d'œufs, ils ne sont pas utiles pour cette filière-là, et comme ce ne sont pas justement des souches qui font entre guillemets de la viande, ils sont les poussins sont dès la sortie du pouvoir. Trier pour sélectionner d'un côté les femelles de l'autre les mâles et les mâles sont gazés ou broyés sauf les mâles reproducteurs. Alors, je voulais vous passer du coup. Mais bien sûr. En fait, je ne fais que répéter les poules. Alors, donc, les poules pondeuses, on a vu qu'elles ont un rapport avec leur poussin dès avant l'éclosion de l'œuf. Aujourd'hui, il n'y a pas de poules, qu'on soit en élevage destiné, en tant que poule, à l'élevage en cage, l'élevage au sol, l'élevage plein air, l'élevage bio. Les poussins naissent en pouvoir. Aucun rapport avec des adultes, donc ils naissent, là ils ont un jour, c'est-à-dire ils sont tout petits, et ils vont être triés. Donc d'un côté les mâles, de l'autre côté les femelles, de façon très rapide. En fait, pour des pêches, on prendrait bien plus de précautions à les manipuler qu'on peut le faire sur des poussins. Alors ces images, elles viennent de Bretagne, elles ont été tournées en 2001, bien avant la naissance de cette gamin. Elles ont été données par Leslie Moffat, qui est une très grande entreprise de Eyes on Animals, qui est une association hollandaise. Donc là, il trie. Comme vous voyez, geste, rappel et principe. Là, il trie, il regarde, il retourne le crack pour regarder s'il y a un vide. Voilà. Et donc, suivant si vous êtes mâle ou femelle, vous allez vers un circuit qui vous mène soit d'un côté au gazage ou au broyage. Alors, gazage, alors les broyeuses, elles sont passées sur TF1 il n'y a pas très longtemps. Il y a eu un scandale aux États-Unis qui est sorti à peu près en même temps que votre enquête Charles, je me rappelle. Ce qui m'avait marqué, c'était que le mode de défense des deux entreprises, aux États-Unis, une entreprise de broyage qui fait pourtant du broyage de façon tout à fait selon la législation, s'est excusée de faire ça, dit qu'il allait améliorer, etc. etc. Donc le broyage, c'est un appareil mécanique qui broie les poussins de façon instantanée. Et voilà, les poussins sont morts sur le coup. Et la défense de l'entreprise a fait son mea culpa en disant que oui, c'était horrible et atroce, que ça se fait en France de façon tout à fait régulière aussi, bien sûr. Personne n'a osé réagir. Et alors que sur l'enquête qu'on avait faite sur l'enquête, on avait monté des manquements flagrants à la réglementation sur la maintenance des animaux, sur l'abattage des animaux, et à la défense de la réponse. Charal avait été en dessus, c'est le nom ce qu'on fait, et la DSV avait ouvert la bataille Charal. C'est deux lignes de défense complètement différentes.
La DSV, c'est la direction.
Les services vétérinaires, par exemple, qui s'appelle d'ailleurs QDSV, qui s'appelle Direction de protection des populations. Et ça regroupe les populations humaines et animales, ils ont mélangé ensemble les GCCRF, qui sont la direction. De répression des fraudes, en fait, la répression des fraudes, et puis les directions des services vétérinaires. Ils ont reconcentré les deux ensemble, sur la protection animale qui n'était déjà pas une priorité des services vétérinaires, mais encore moins parce que les services vétérinaires, comme ça, ils ont la protection animale et ils ont aussi le côté sanitaire.
Vous avez entendu dans la partie qu'on pouvait repérer dans l'œuf le sexe, c'est carrément un mythe.
Bah, c'est encore pas.
Il y aurait des techniques qui pourraient se créer pour savoir.
On va faire une petite échographie.
C'est un rayon lumineux qui est caché là, et c'était censé être différent, mais en fait, ça ne fonctionne pas assez bien.
Alors, soit ça ne fonctionne pas assez bien, soit c'est trop cher, c'est quand même. Voilà, et ça, c'est la sortie de la broyeuse où les poussins sont complètement disloqués. Et là, effectivement, il y a une différence de technique entre broyage et gazage. Broyage, les poussins sont broyés immédiatement dans les poubelles. Vous ne trouvez pas de poussins vivants, en principe, ils ont vraiment tous les os broyés. Alors que le gazage, souvent, déjà, Enfin, personnellement, je préférais être broyé plutôt qu'être gazé. Non, mais le broyage, c'est instantané. Le gazage, vous sentez, ça vous brûle les poumons, vous sentez qu'on fuit d'air, etc. J'ai assisté aussi à des gazages de porcs dans un abattoir aussi, et la panique envahit les animaux. Pareil, dans un abattoir de volaille, on voit tout de suite qu'on est en train de se passer un truc pas clair, pas net.
C'est quoi
un porc? Un porc, c'est du CO2. Du CO2, du dioxyde de carbone. Et donc c'est une agonie qu'on voit arriver, etc. Et en plus, quelquefois, l'utilisation du gaz n'est pas assez prolongée et du coup les poussins se réveillent, ils se réveillent dans une poubelle et sans espoir de survie. Enfin, c'est mourir dans une poubelle entassée sous d'autres poussins, etc.
Mais le dioxyde de carbone, c'est pas ce qui fait que parfois des personnes s'intoxiquent avec la mauvaise chaudière, oui. Et ça meurent sans s'en rendre compte.
C'est
le monoxyde de carbone. Pourquoi ils n'utilisent pas le dioxyde de carbone?
J'imagine que c'est trop nombreux. Non, c'est vraiment les transporteurs qui sont même alors, qui ne sont pas spécialisés sur les animaux, mais quand ils ont des animaux, et... c'est quand même pas balancé, comme c'est pas un colis poste, c'est pas un colis stylo. Voilà. Et après, l'élevage, il commence tout de suite à la 21e semaine, c'est-à-dire la phase qu'ils appellent la phase de ponte. Ça commence à 18 semaines pour les élevages standards, et parfois jusqu'à 21 semaines pour les élevages bio. Et pendant un an, ils restent en élevage qui sont effectivement différenciés, c'est-à-dire suivant le mode d'élevage, les poules ne vont pas avoir tout à fait la même vie. Par contre, ce qu'elles vont garder en commun de nouveau, c'est le moment où elles vont être transportées pour l'abattoir à 70-80 semaines, avec des transports qui peuvent être assez longs parce que le cours de la poule pondeuse en fin de carrière est très très bas, et du coup, il y a certains abattoirs qui prennent les poules pondeuses et pas tout. Puisque ce n'est pas les mêmes débouchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, que pour les poules de chair, donc ça demande une filière spécifique pour faire du poule, pour faire de la poule de chair, des chats, etc. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente les poules pondeuses en France? Il y en a 47 millions de poules pondeuses, donc 47 millions de poules sauvages à peu près gazées ou broyées, qui pondent 15 milliards d'œufs par an. Et si on compare par rapport à l'Europe, 102 milliards. Donc la France, elle fait un dixième de la production, on est, je crois, le premier producteur d'œufs en Europe. Avec une concentration des élevages, sur la partie ouest de la France, notamment les Côtes d'Armor, qui concentrent un certain nombre d'élevages, aussi bien d'ailleurs intensifs que alternatifs. Et dans alternatif, il y a élevage, quand une entreprise d'élevage alternatif concernant les poules pondeuses parle de tout ce qui n'est pas élevage en cage. C'est-à-dire qu'il est aussi bien dans élevage au sol, élevage en volière. Avec accès à l'extérieur et élevage biologique.
Les données sur les élevages, tout ça, c'est des données qui se trouvent facilement ou vous avez dû chercher
Alors ça dépend quelles données, mais les statistiques et tout ça, elles sont disponibles sur Internet. Il y a des sites spécialisés, notamment l'Office de l'élevage et des choses comme ça, sur lesquelles on peut trouver tout un tas d'informations qui sont intéressantes. Notamment la proportion.
Comment ça s'appelle aussi?
C'est l'élevage pour
le déjà-pêche. Donc, 47 millions de poules pondeuses, c'est par an ou à chaque instant?
C'est la même chose. Par an et à chaque instant, parce que les poules, elles restent un an dans le cage.
Un an de compte, mais elles vivent un an et demi.
Oui, elles vivent un an et demi, mais c'est 47 millions qui sont tués à la fin, et ça correspond à peu près au nombre... chaque année en fait. C'est 47 millions de poules pondeuses qui sont tuées chaque année et le chiffre à peu près à la même chose en élevage. Il y a des périodes où les élevages ne sont pas pleins parce qu'ils ont un vide sanitaire entre deux périodes, ils ont un vide sanitaire.
Ouais. Oui d'accord, donc c'est 47 millions de poules en ponte.
Là c'est 47 millions de poules en ponte. Ouais. Donc effectivement les futures pondeuses aussi elles sont en route un laps de temps avant pour pouvoir remplacer dans les différents élevages. Intéressant à savoir aussi que les gens consomment en moyenne, même si c'est une moyenne, 244 œufs par personne. Et la France est le troisième pays consommateur derrière le Danemark et la Hongrie. Et aujourd'hui, la part d'œufs consommés, c'est 30% environ dans les ovoproduits, c'était 22% en 96. Et ils tapent sur une augmentation à 50% dans les prochaines années. C'est-à-dire que la plupart des gens vont manger des œufs dans les gâteaux et c'est tout ce qui est œufs, entre guillemets, cachés, des œufs qu'on ne voit pas, qu'on ne soupçonne pas et dont on ne se soucie pas de la provenance. Alors, les ovoproduits, c'est tout ce qui est préparation à base de gâteaux.
Les
pâtes d'œufs,
les
gâteaux,
les
baïonnettes, et puis dans tous les plats préparés aussi, souvent il y a de l'œuf, il y a de la poudre d'œuf, il y a plus de choses. Alors, la recherche scientifique. Tiens, vous les connaissez. Les Il y a un projet européen qui s'appelle Lake, qui regroupe un certain nombre de chercheurs, et les chercheurs qui sont les référents pour la France, c'est l'INRA, et à l'INRA, on en a repéré quelques-uns, notamment M. Faure, qui avait sorti une étude qui a été expliquée par Armand Paracci, qui avait écrit son livre « Pourquoi les poules préfèrent les cages ?» puisqu'il avait une évidence que, visiblement, les poules préféraient être en cage que... être en niveau parcours. Et puis M. Guémenet, qui est chef d'unité aussi à l'INRA, qui est très connu pour ses travaux notamment sur le foie gras. Et c'est les études qui ont été décortiquées notamment par Antoine dans son livre en 2006, et qui montrent bien les biais d'études par rapport à la recherche. Alors,
le livre est là d'ailleurs, je vais vous expliquer, il est sur la table.
Voilà. Voilà, décortiquage et sur la recherche. Donc c'est montré que comme l'INRA est à la fois recherche publique d'un côté et puis recherche aussi privée de l'autre, bah, les deux se heurtent. Si vous voulez avoir des fonds privés qui sont investis dans une recherche d'un côté, difficile de dire que en fait ce qui se passe pour ces mêmes producteurs, enfin, c'est pas chouette pour les animaux de l'autre. Il y a des conflits d'intérêts qui sont structurels en fait par la structure même de l'INRA, il y a un conflit d'intérêts. Et donc sur les projets européens, ça se fonde sur les 5 points de satisfaction des besoins qui sont décortiqués donc en besoins physiologiques. Ça, c'est l'alimentation manger et boire. Environnementaux, donc le confort de l'animal. C'est tout. Sanitaire, la prévention des maladies et des blessures. Psychologiques, limiter la peur et l'anxiété. Comportementaux, possibilité d'exprimer ses comportements naturels. Et l'absence de comportement aberrant. Si ces 5 points étaient réellement respectés, il y a un certain nombre de conditions d'élevage qui existent de la même façon. Si l'article L214 du Code rural était respecté, il y a vraiment beaucoup d'élevages qui seraient fermés aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas répondre à un certain nombre de besoins qui sont bien connus pour les animaux en fonction des espèces. Et du coup, à partir de ces recherches, puisque la réglementation s'appuie à chaque fois sur des avis scientifiques, il y a des conventions européennes, etc. Et les dernières choses qui sont sorties, c'est une directive qui date de 1999 qui détermine les normes de 4 types d'élevage qu'on va voir après. Ça a été transposé en droit français. Et puis la dernière partie de cette directive est applicable au 1er janvier 2012. Elle avait plusieurs étapes depuis 1999. Et sa dernière étape, c'est le 1er janvier 2012, d'où les campagnes des associations qui justement sont sur les pépondeuses. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites en ce moment parce qu'il y a un virage au 1er janvier 2012. Bon, alors, que représente l'élevage en cage? Je vais me concentrer sur la France. J'ai aussi quelques données au niveau européen qui sont dans mon cerveau, donc si je m'en rappelle, je peux vous le dire. Et sinon, j'ai la documentation avec vous. Donc en France, 80% des poules pondeuses sont en cage. C'est une écrasante majorité des poules pondeuses. Et ça n'a guère évolué ces dernières années, contrairement à ce qu'on peut penser avec justement une prise en compte croissante des animaux, de montant de plus en plus parlé du bien-être animal, et pourtant encore aujourd'hui, en France, 80% des poules pondeuses sont en cage. Elles ont, alors je vais parler pour le 1er janvier 2012, puisque c'est là où on va arriver, elles ont 600 cm² de surface utilisable par poule pondeuse, et la surface d'une feuille A4. Bon, alors les poules, c'est pas comme ça, hein. C'est quand même. Dans la réglementation, c'est écrit 750 cm² de surface utile et 600 cm² de surface utilisable. Donc c'est bien la surface utilisable qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a des surfaces qui en fait ne peuvent pas être utilisées de la même façon par beaucoup. notamment les bords qui sont antidépresseurs, etc., qui font partie. Alors, les bords antidépresseurs, c'est quand vous avez la mangeoire, ça empiète un peu sur la surface de la cage. Enfin, cette surface-là ne peut pas être comptée comme surface utilisable par la poule. Ok, elle s'en sert pour manger, mais elle ne peut pas se placer sur cette surface. Elles ne sont pas une poule par cage, c'est-à-dire que les poules, les cages ne font pas cette surface-là. Elles sont plusieurs poules par cage. Alors, il y a des modèles, il y a des études qui sont faites pour savoir s'il faut en mettre 20, 40, 60 poules dans chaque cage. Et donc, je multiplie par autant la surface de la feuille par cage. En élevage en cage, elles sont du coup 16 poules par mètre carré, avec pas de sortie à l'extérieur. Elles ne changent pas de cage, enfin, elles restent toute leur vie sur ce sol dégagé, en continuité totale avec les autres poules. Quand vous rentrez dans les hangars d'élevage en cage, ce sont des rangées de cages immenses. Et alors, ce qui se passe avec le changement de réglementaire, c'est qu'on avait des élevages qui faisaient 20, 30 000 poules. Aujourd'hui, les nouveaux élevages qui se montrent, ils peuvent aller jusqu'à 200 000 poules dans le même bâtiment. Alors, qu'est-ce que ça donne? Moi, le plus grand que j'ai visité, c'était 9 étages de rangées de cages, avec des passerelles entre pour que les éleveurs puissent passer, que vous aviez trois rangées, une passerelle, votre rangée, une passerelle sous. Et des centaines de mètres de lit. Alors bien sûr, on met la lumière au minimum légal autorisé, parce que toute la lumière sur les poules, enfin, le programme de lumière est optimisé de façon à avoir une pompe optimale, mais de réduire l'agressivité quand même entre les individus qui, dans une proximité telle que celle-ci, s'agressent facilement entre elles. Voilà. Là, c'est clair, enfin, une poule ne peut pas se déplacer sans gêner les autres. Dans les nouveaux équipements, donc à partir de 2012, et donc il y a des élevages qui sont déjà passés aux normes, mais c'est pas la majorité, il y a un dégrifoir, un nid, une litière, une aire de grattage et de sauvetage, un perchoir, une mangeoire, un abreuvoir. Et ce que je viens de dire plus tôt, ça c'est dans la réglementation. Donc dans la réglementation, c'est prévu qu'il y ait ces choses-là. Après, dans l'application, voilà, faites-vous une idée un peu, qu'est-ce que c'est un nid? Vous avez une image de nid? Je vous en montre une autre. Regardez comme c'est joli. Alors, vous auriez appris ça un nid? En fait, ce sont des lamelles qui protègent un espace dans la cage. Et quand vous soulevez la lamelle, en fait, c'est de la cage grillagée à l'intérieur. C'est pas du tout. On a vu tout à l'heure que les poules, elles aimaient se fabriquer un nid à partir de des végétaux, etc. C'est pas du tout
ce qui se passe
dans les élevages.
C'est juste un espace
privé. Ouais, mais voilà, c'est juste une cabine d'essayage. Mais c'est un besoin quand même important de la poule qui a été pris en compte, puisque des études ont montré que les poules, elles pouvaient sauter jusqu'à 30 minutes pour ne pas pondre d'œufs quand il y avait d'autres individus à proximité et que ça créait un énorme stress pour elles. Donc, effectivement, on peut dire que c'est une amélioration. Vous pouvez être aussi très critique vis-à-vis de cette amélioration, de ce qu'on voit, même la protection de l'arc. Voilà, et c'est vrai qu'avec tous ces aménagements qui étaient prévus, quand la directive elle est passée en 1999, la plupart des associations de protection animale ont communiqué sur la fin de l'élevage en cage. Parce qu'ils étaient persuadés qu'aucune. Il y avait trop de contraintes pour réussir à faire perdurer l'élevage en cage. Et en fait, nous, aujourd'hui, il y a des cages aux normes 2012 qui apparaissent. Et alors, bien sûr, les associations de protection animale sont très critiques parce que ces cages ne permettent toujours pas aux poules d'exprimer un certain nombre de besoins. Et aussi parce qu'il y a eu un contournement de l'esprit de la réglementation pour pouvoir adapter des systèmes d'élevage à des choses qu'on aurait qui ne marchent pas. Il y a eu une espèce d'adaptation. En ayant visité plusieurs élevages au moment de 2012, on n'a jamais vu l'ère de grattage et de picotage. Voilà. Et quand on regarde la communication scientifique, je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais l'ère de grattage et potage, c'est un tapis en plastique avec des morceaux de plastique qui sortent. Ils viennent de se rendre compte que l'herbe peut-être sur le plus faire. Alors certains mettent des graines sur cette surface-là et du coup la poule peut picorer sur ce truc-là. A priori, c'est même pas au point de chez eux.
Alors, je voulais vous montrer des images.
Alors, voici un élevage qui est aux normes. Alors, qui était. Ah bah oui. Non, vous verrez pas.
Si tu peux l'exploiter.
J'ai plus internet. Et où vous voyez des poules à 20 degrés. Et avec la ils ont une peau rouge qui les mange en permanence. Et pour lequel, dans le magazine, on voit qu'il y a des peaux
Puis, je ne sais pas si tu vas parler des pointages, lui aussi, pour les étages
informatiques. Oui.
En bio, ça va.
C'est pas parce qu'ils sont agressifs, c'est une mesure de son programme d'améliorer la qualité des individus de cette espèce.
Oui, d'accord, mais là, dans le cadre des élevages de tourneaux, souvent les blessures elles ont été provoquées d'abord par l'agressivité et ensuite, effectivement, c'est un charge complète.
Oui, mais le principe c'est celui-là. C'est-à-dire que ça se voit dans la nature des animaux
aussi,
sauvages,
oui.
Et ça se voit, c'est-à-dire qu'ils essayent d'avoir les baisses sur des baisses.
Ah bah là c'est
chaque fois. Une sélection naturelle, si vous voulez ça.
Alors, on peut passer à l'élevage aussi. Alors là, on n'a pas encore d'image, mais en France, il y a 3% des poules qui sont élevées au sol. C'est la mention obligatoire. En fait, les élevages, c'est. Donc il y a la directive de 99 et ça donne aussi un règlement aussi qui fixe le marquage des œufs et ce qui doit être mentionné absolument sur les boîtes d'œufs, etc. Et donc c'est très codifié. Donc il y a élevage en cage, donc qui peuvent être des cages de mi-doute ou des cages qui ne sont pas encore au mal de mi-doute. L'élevage au sol. Alors l'élevage au sol, c'est un élevage dans un hangar sans sortie à l'extérieur, mais les poules ne sont pas gardées dans des cages. Et elles ont 9, il y a 9 poules par mètre carré. Tout à l'heure, on a vu qu'il y en avait 16 par mètre carré. Donc, on veut dire qu'elles sont un petit peu moins tassées les unes sur les autres. N'empêche que 9 poules au mètre carré, c'est encore énorme. Hein. On regarde un mètre carré ici, on le trouve, enfin, ça fait un espace de vie qui est assez réduit. Et les hangars, on en a vu un certain nombre, les plus importants, on voyait 40 000 poules. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a peut-être pas les plus grands, mais voilà, on avait vu tout ça, c'était 40 000 poules. Et dans les élevages au sol, tout ce que je dis, c'est dans la réglementation. Attention. Dans les élevages au sol, il doit y avoir de la litière sur au moins un tiers de la surface, avec 250 cm² de litière par poule. Et là, du coup, on a la litière qui est inscrite de façon plus stricte que dans l'élevage en cage, où c'est pas précisé quelle quantité de litière il doit y avoir, et du coup, ça permet. Tout ce qui n'est pas précisé, du coup, ça peut.
Qu'est-ce que c'est la litière, ça du foin?
La litière, ça peut être... Non, c'est pas tellement du foin, en tout cas, c'est une espèce de gros poil. Ensuite, vous avez l'élevage plein air, code 1, qui représente 14% des poules qui sont en France. Dont 3, et sur ces 14%, en fait, c'est 11% des poules qui sont dites élevées en plein air et 3% en label rouge. Ouais. Et elles sont aussi 9 poules par mètre carré dans les bâtiments, mais elles ont un accès au plein air qui est de 4 mètres carrés par poule à l'extérieur et 5 mètres carrés par poule pour le label rouge. Et elles doivent sortir, il y a un délai de sortie qui est donné pour le label rouge à partir de 25 semaines, obligatoirement, elles doivent pouvoir être mises à l'extérieur. Sur l'alimentation générale, ce n'est pas précisé, mais il doit y avoir un accès au plein air. Pareil, là, il faut aller faire le tour pour voir si, si c'est bien respecté. Les normes concernant le label rouge sont plus restrictives que les normes en plein air simples, à savoir sur... notamment les arbres qui doivent être trouvés sur le parcours des animaux, les buissons, etc., pour essayer de, effectivement, d'avoir un accès plein air qui ressemble à quelque chose et pas juste une grande aire dénudée où les poules ne vont pas sortir parce qu'elles ont peur des prédateurs et que ce sont des animaux qui vivent dans les sous-bois. Donc une aire dégagée, ça ne m'intéresse absolument pas. Les hangars contiennent 10 000 poules avec 6 000 poules en label rouge. Pareil, la litière sur au moins un quart de la surface. En fait, ce qui réglemente l'élevage plein air et l'élevage de sol, c'est un petit peu la même chose, sauf que d'un côté, il y a un accès vers le plein air. Et de la même façon, en fait.
En label rouge, nous comptons qu'il y a l'exigence de l'arbre.
Bah, c'est dans l'esprit de la directive, après.
J'ai vu c'est du bio plein air. C'est le terrain, mais c'est la terre, il n'y a pas de d'arbre là où elle pourrait être.
Sur le bio, il faut que
tu
je
n'ai
pas
de bio.
Et sur le bio, dans ces 3% des profondeuses, elles sont à partir de. Enfin, elles sont normalement 6 poules par mètre carré dans les bâtiments, mais il y a des dérogations jusqu'en 2013 pour les garder à 9 poules par mètre carré. Et elles ont aussi un parcours extérieur de 4 mètres carrés par poule. Et pareil, la sortie maximum à 20 poules. Et les hangars ne contiennent que 3 000 poules. Et que 3 000 poules. Donc on voit par rapport à l'agressivité et tout ça, enfin, 3 000 poules dans un hangar, que vous soyez une poule bio, vous n'en êtes pas moins impossible. Et on a vu récemment un élevage bio qui est en train de se monter. Et il a bien reconnu qu'il ne fallait que 3 000 poules par élevage, et donc il a coupé son hangar en 4, et donc il a 2 000
poules.
Mais il y a la surface avec les 6 mètres carrés par poule, mais c'est tout par le carré. C'est par le carré, mais n'empêche que tu. Enfin, voilà. Bah, de toute façon, moi, je pense que ça fait une différence, et c'est vrai que. C'était 3000 personnes autour de toi, ou 12000, je pense qu'au bout d'un moment.
Et ça se passe aussi, c'est même pas le même temps à chaque fois. Ça commence
à quasiment rien, mais c'est même pas du même. Ouais, de toute façon, alors oui, il y a bien une critique de l'attention portée dans la réglementation. C'est écrit que l'éleveur doit regarder chaque jour, chaque poule, et soigner les poules qui sont blessées ou malades. Ben, 3000 poules, ça me paraît déjà compliqué.
Ils
peuvent plus le faire que s'ils en ont 12000, et encore plus que s'ils en ont 200 000 dans un hangar où je dois regarder dans le cadre. Ceci dit, les poules mortes, on les retrouve assez fréquemment dans les
élevages. Du coup, ça, c'est la meilleure des situations où tu peux prendre en supermarché et en deux.
Ouais.
Ça, c'est vraiment le meilleur.
Ça, c'est le meilleur.
Il y a un peu de. Après, il y a le parent bio, il y a le label Nature et Progrès. Ils obligent à ce que l'espace partout soit un peu plus grand, mais.
Plus grand que ça
partout, oui, je crois qu'ils ont un mètre carré. Partout, dans le monde.
On ne peut pas avoir un mètre carré partout. En bâtiment, c'est pas possible.
Mais ils arrivent à respecter la surface extérieure. Hein. Parce que ça me paraît énorme quand même, hein, que je vais dans la rue. Hein. Vous voyez combien de poules,
oui, mais il faudrait qu'on aille mesurer.
Ça fait 5 hectares, quoi.
Mais
Les poules, elles vont pas s'en nourrir, on n'aime pas
la facilité. Il y a quelques serveurs alternatifs qui ont les plus plein air concept, et en fait, les poules ne sont pas toutes dans un bâtiment, elles ont des bâtiments qui sont répartis sur toute la surface, et donc ça donne un peu des poulaillers qui sont plus petits pour venir, et ça représente une poignée d'effort.
Uniquement, il y a des
après, c'est des circuits
qui sont changés, etc. Je ne sais pas si vous avez une organisation genre la journée, parce que là, quand on est extérieur, on va dire que c'est pour une nuit, c'est pour rentrer
à une certaine heure. Alors, elles ne sont pas rentrées à une certaine heure, elles rentrent de toute façon à une certaine heure. Elles rentrent seules et après, les frappes se ferment et elles s'ouvrent le matin de toute façon.
J'avais un ami qui travaillait dans une ferme de poules, qui était notamment en élevage de poules. Et effectivement, il y avait un très bel hangar en bois avec des frappes, mais comme les poules arrivent là, elles sont déjà un an et demi, elles sont conditionnées puisque elles meurent à un an et demi. Quand elles arrivaient, elles étaient conditionnées pour rester toujours au même endroit, de toute façon, elles avaient la possibilité de sortir, mais lui me disait qu'il y a à peu près 10% des poules qui sortent, les autres restent dans l'hangar.
Après, elles choquent des fois il y a quelques élevages bio que j'ai visité moi, mais il y avait 750 poules par bâtiment. 3000, c'est la limite supérieure, après, ils peuvent faire le choix de en avoir moins. Et là, c'était beaucoup plus à l'extérieur.
Là, c'était énorme.
Et ça dépend de ton nombre aussi et tout ça. Et ça dépend aussi du parcours extérieur, comment il est foutu. Si tu as une grosse aire dégagée avant de pouvoir aller aux arbres, c'est moins bon pour les poules que de pouvoir.
Il y avait un garçon qui travaillait dans la ferme, son job c'était tous les jours de ramasser les poules mortes. Ouais. Et il y en avait une énorme.
Ouais. Ben, la mortalité en élevage bio et vénère est de 10%. Et la mortalité en élevage en cage, c'est 5%. Et il y avait sur un des forums qu'ils ont lancé, je pense que tu l'as vu, un site internet, là, les éleveurs de poules pondeuses en cage. Il y a grosso modo la même charte graphique que le craft a juste fait sur les poules qui disait bah oui, mais nous on a un taux de mortalité qui est beaucoup moins élevé que dans les élevages pénères, qui pouvait être un peu moins effectivement. Et il y avait une éleveuse de pénères qui disait oui, mais on ne peut pas absolument nous garder à l'intérieur, on ne sort pas, il y aura une mortalité aussi, enfin, c'est un peu gênant.
Ok, la femme meurt. Mais de quoi elles meurent? Qui sont dans des conditions qui semblent un peu meilleures. Pourquoi elle meurt deux fois plus que dans les cages?
Pourquoi elle meurt deux fois plus dans
les cages? On ne sait pas, mais c'est possible que tout dépend comme elles ont plus d'espace, elles peuvent plus se battre aussi.
Est-ce que c'est un moment où elles n'ont pas lié à des médicaments qu'elles prendraient ou des antibiotiques? Est-ce qu'elles sont traitées par des médicaments quand elles sont
c'est clair aussi qu'elles peuvent être plus sujettes aux maladies éventuellement en élevage avec accès vétérinaire parce qu'il n'y a pas justement, quand vous rentrez dans un élevage aux normes, un élevage en cage, vous rentrez dans une combinaison spéciale, vous mettez des bottes, vous passez par un bain de nettoyage, vos bottes sont nettoyées, etc. Donc il y a une veille sanitaire qui est beaucoup plus strict au niveau des élevages en cage. Et après, oui, en plein air, il y a aussi le problème avec la prédation. Donc, elle peut se faire inquiéter par les rapaces, etc.
Il y a des grillages
qui coulent. En Éthiopie, ils parlent des poules parasites, des poules étrangères. Ils se moquent vraiment des poules parasites parce qu'elles sont vraiment bêtes et elles meurent très très vite. Alors que les poules nationales, habitué, elle meurt pas. C'est vraiment. Je dispose un peu des paralysies en même temps, des poules à travers les poules.
Et il y a une petite différence aussi de ces poules qui sont en cage. Il y a une association en Belgique qui recueille des poules pondeuses chaque année qui a constaté une différence entre les poules qui proviennent d'élevage intensif de cage et d'autres qu'elle récupère. Les poules qui sont d'élevage intensif. Elles prennent très rapidement une vie entre guillemets de poules, quand elles ont plusieurs, etc. elles ne sortent pas, alors que les autres vont faire les poils dans la mer. Et celles-ci ne sortent pas, sinon, effectivement, elles meurent très rapidement parce qu'elles ne sont pas du tout développées. Alors que, bah, du coup, avec Action Ténère, elles peuvent aussi sortir l'hiver. Il y a une autre chose, je pense, par rapport à ce que tu disais, il y a l'apprentissage via les générations, etc. Les poules qui sont dans les élevages, peut frapper qu'elles viennent dans des couloirs où elles n'ont aucun apprentissage sur le monde.
Où se place votre enquête par rapport à certaines personnes de la couleur dorée et des gens très alternatifs qui refusent les bio, parce que dans les bio, par exemple, dans les céréales ou dans les produits alimentaires qui sont aux poules, il y a un pourcentage à respecter, tandis que je crois que c'est autour de 90-96%, et il y a 4% de produits de OGM et compagnie. Et il y a certaines coopératives, ça se fait pas seulement pour les poules, mais ça se fait pour les vins biodynamiques et compagnie. En fait, ils ont un espace beaucoup plus grand, ils ne prennent pas en compte cette caractéristique de bio, parce que pour eux, cette pourcentage est faussé. Ils disent que soit il y a un produit naturel ou il n'y en a pas. Donc ils disent que, en fait, la surface est beaucoup plus grande, ils n'ont pas vraiment des cartes, c'est un peu narratif. Ils prennent ces œufs, ils n'ont pas de certification, mais on peut rendre visite à ces fermes un peu de campagne, et il y a des gens qui viennent recueillir les œufs dans la forêt. Comment on se place par rapport à ça, ou comment vous placez l'épisode 14 par rapport à ça? Il n'y a pas beaucoup, hein, c'est une minorité. Hein. Oh,
c'est vraiment une
poignée,
on n'a pas envisagé
une coopération. Mais il y a eu un film qui a été fait par rapport à ça, sur les gens qui refusent les bio précisément, parce que, par exemple, les bio, je ne sais pas si vous savez, mais les shampoings bio et compagnie, vous avez l'obligation d'avoir jusqu'à 10% de produits bio. Et ça peut aller là avec bio, mais il y a 90% qui n'est pas du tout bio. Et ça change selon le produit. Mais c'est par principe, soit c'est bio, c'est pas bio. Quoi. Donc il se moque un petit peu de cette réglementation-là. Et je répète, c'est un petit groupe marginal. Mais il me semble, pour ce qu'on a vu dans les reportages, que les conditions de vie pour prendre les soeurs sont beaucoup plus proches de la nature que...
Bah, ça pourrait être en dessous encore, une autre slide, l'élevage. Voilà, mais je pense que les premières étapes et les dernières étapes de la vie, elles sont communes. Est-ce que les poussins restent sur place?
C'est des poussins qui naissent dans la ferme.
Bah après, il y a la question éthique à se poser, est-ce que c'est légitime quand même d'avoir servir des animaux pour récupérer leurs œufs? Après, c'est clair qu'il faudrait être une poule de cet élevage-là, que je ne sais
pas. Oui, mais par exemple, ces petits poussins-là ne sont pas pointés.
Mmh. Oui, mais voilà.
Ils ne sont pas triés à la même
façon. Après, c'est est-ce que c'est une coopération, est-ce que c'est une vie en parallèle des uns et des autres, et puis on fiche la paix aux animaux de leur côté, voilà, est-ce qu'on est encore dans l'exploitation animale ou est-ce qu'on est plus? Si on est encore, il y a quand même un objectif derrière de tirer un coup d'animal et ça, en principe, ça induit des biais qui sont contraires aux intérêts des animaux.
Une question sur la numérotation, parce qu'on dirait que le pire c'est 3, on va vers le meilleur entre guillemets 0. Comme si le code zéro était l'horizon indépassable du bien-être animal. Et après, s'il y a une meilleure catégorie, on descend à moins 1, moins 2.
C'est
bien, zéro plus 6. Ça devrait être noté dans le sens, quoi. Pour laisser espérer un progrès avec des catégories 3, 4, 5, jusqu'à l'élevage 10 étoiles.
C'est sûrement pour ce que
l'élevage familial.
Alors, là, ce qu'on a vu, c'est la réglementation. Donc la réglementation, c'est une base, et c'est précisément la base de communication de l'industrie de la viande, en fait. Puisque quand vous avez un cahier des charges, ou même des chartes de bonnes pratiques qui ne sont en aucune façon contraignantes, c'est de ce type de communication que vous allez vous servir pour dire, bah, regardez, enfin, nous, voilà, nos poules, elles ont un perchoir, elles ont un pouvoir. C'est une belle vie. Et en fait, on voit une différence flagrante dès lors qu'on va en enquête. Alors là, si Internet ça marche, je vous montre en enquête. Donc ces images ont été tournées en 2008 et 2009 en Bretagne, dans le même élevage. Voici le contexte. Ça, c'est un élevage aux normes avant les normes 2012. Et en fait, en calculant la surface des cages, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de poules que ce qui était prévu par la réglementation. Avec des poules qui sont très fortement déplumées, aucun aménagement sur ces poules avant, enfin, ces élevages avant les normes de l'eau. Et donc, c'est un élevage qui devait contenir, d'après la réglementation, enfin, en tout cas, un quart de moins de ce qu'il y avait de poules à l'intérieur. Et les éleveurs, en fait, étaient restés aux normes de avant 2003. En fait, en 2003, il y a eu un détachement de poules à l'intérieur des élevages après la réglementation. Et là, on est passé, nous, en 2008. Et puis ensuite, en février 2009. Et il y avait 26 000 poules dans cet élevage. Voilà. Donc là, un petit peu plus tard, on voit l'état des plus pondeuses qui est vraiment. Et normalement, dans la réglementation, c'est écrit si vous voyez que les poules ont pas un plumage, si vous voyez qu'elles sont un petit peu. Qu'elles sont pas encore, etc. Enfin, de façon flagrante, ces poules pondeuses ne sont pas en forme. Juste en passant en temps, une fois, on a trouvé des tas de cadavres aussi, de poules pondeuses à l'intérieur des cages. Qui est en état de décomposition avancée. En théorie, d'après la réglementation, l'éleveur passe tous les jours, regarde tous les jours l'état des animaux, ramasse les poules mortes. Enfin, c'est bon. Alors, j'ai fait des enquêtes avec les mais on n'a pas pensé que ça allait arriver. Qu'est-ce que vous pouvez faire après? Est-ce que c'est dénoncé à qui? Alors, sur cette affaire-là, on a fait une lettre. On a fait une lettre à la direction des services vétérinaires du coin. On leur a dit, bah ouais, cet élevage, la réglementation n'est pas respectée, puis on a porté plainte contre l'éleveur auprès du tribunal. Et la direction des services vétérinaires a fait un signalement comme quoi on a pris ces élevages de façon illégale. Chouette. Et l'éleveur, on peut être quoi? En gros, personne ne peut rien faire, parce que soit c'est parce qu'il se passe dedans et la personne ne va pas soit on sait, mais c'est comme si nous sommes étendus. Il n'y a que l'éleveur qui peut faire tout. Donc, voilà. Grosso modo, on était au courant, on va voir après qu'il y a d'autres choses, mais sur ces élevages-là concrètement, on avait calculé que le bénéfice tiré depuis 2003 par ces éleveurs s'élevait à 147 000 euros sur le dos du gagnant qu'ils avaient mis en couche. Et l'affaire a subi son cours en justice. Celle-ci n'a pas été classée sans suite, mais elle a été reclassée en, je sais pas, en amende, et donc l'éleveur a eu 500 euros d'amende. Enfin, qui a fait deux rapports. en 2009, ils sont retombés dans les mêmes erreurs en 2011 et il n'y a pas eu d'évolution de la situation. Alors qu'ils avaient pointé un certain nombre d'infractions à la réglementation. Et dans le rapport qu'ils ont fait, ils ont aussi pointé le fait que, par exemple, les services vétérinaires français ne savent pas mesurer une densité à l'intérieur des élevages. C'est-à-dire que quand ils se font dans un élevage cousin, ils se rendent compte qu'il y a trop de poules ou pas assez. Alors je pense que ce n'est pas général à tous les services vétérinaires, mais ça ne fait pas partie de leur grille quand ils rentrent dans un élevage. Ils vont vérifier les conditions sanitaires de façon assez précise, mais les conditions de protection animale, souvent, c'est beaucoup plus flou. On l'a vu aussi sur, quand on a fait l'enquête sur les abattoirs charal. Aujourd'hui, il y a une grille concernant la mise à mort des animaux. Enfin, ça a été annoncé, on ne sait pas où ça en est, mais qu'il allait y avoir une grille justement sur la protection. C'est un peu paradoxal. La protection des animaux dans les abattoirs. Voilà. En tout cas, que les normes qui ont été mises en place, qui sont quand même des normes qui empêchent de faire un certain nombre d'opérations sur les animaux quand même en grand faire abattage, soient respectées. Et ça, ils n'avaient pas de grille d'évaluation. Les services vétérinaires, ils regardaient les empreintes des animaux notamment et l'étude en thème avant et post-thème après la mise en mort des animaux. Mais c'est vrai qu'au niveau de la protection animale, voilà, il y avait un fou. Donc normalement, la protection animale, d'après ce qu'ils avaient dit, devait être amenée au même niveau que la préoccupation au niveau sanitaire. C'est ce qu'on a vérifié. Et ce qu'on veut aussi noter, ce qu'on a déjà noté, c'est l'impossibilité d'avoir une inspection journalière de tout et tout. Donc, quel que soit le type d'élevage, c'est impossible. J'ai une question. Bon, en France, je crois que les écoles de vétérinaires sont en fait jetées par le ministère de l'Agriculture. Je pense qu'elles ne dépendent pas de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce qui peut poser un problème, c'est leur logique. Si mes informations sont exactes, relève uniquement la logique du ministère de l'Agriculture. Est-ce que les écoles vétérinaires d'autres pays d'Europe sont dans la même collusion d'intérêts par rapport à leur ministère respectif de l'Agriculture, ou est-ce que leurs autres écoles vétérinaires dépendent de ministère d'enseignement de l'équivalent du ministère d'enseignement?
Aucune idée, mais je ne peux pas vous dire que dans les pays par
en Belgique, je ne sais pas.
Dans les abattoirs, il y a des visites régulières de vétérinaires. C'est
tout le temps.
Tout le temps.
Oui, ils s'occupent de l'hygiène pour l'humain. Oui, mais théoriquement, ils viennent aussi, théoriquement, par les grands papiers, la mission,
l'hygiène pratique. Moi, j'avais compris qu'il y avait toujours un peu les dérives de sadisme et tout ça, et qu'ils étaient là un petit peu pour veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de dérives cruelles. Parce que c'est dans la psychologie un peu, les mécanismes qui se mettent en place dans les abattoirs, on a toujours des dérives comme ça, et eux ils sont là un peu pour tempérer.
Est-ce qu'il y a vraiment un vétérinaire par abattoir, ou ils font les tournées?
Il y en a un qui a fait, normalement, il devrait être là tout le temps.
Moi, ça travaille 8 des jours, un abattoir. Le vétérinaire, il n'est pas là tout le temps.
Oui, mais il y a pas que ce soit là quand le abattoir est en plus long, quand la chaîne d'abattage est en plus long. Parce que quand on arrive le soir,
il me semble, au niveau de l'initiative pour rebondir, je pense aux États-Unis, les vétérinaires n'ont même pas accès à la zone de QV. Ils sont uniquement à la fin de la chaîne.
Ils ont accès, en théorie, ils ont accès, mais là, sur les abattoirs, soit on était réalisé un vétérinaire.
qu'il y a un stage pour les vétérinaires, nécessairement, je pense que plus les vétérinaires font un stage en laboratoire.
Oui, ils font des stages en laboratoire
de l'hôpital. Oui, c'est vraiment ça.
De quelle façon
peut aussi développer cette thérapie-là, mais c'est vraiment ponctuellement. Et c'est vrai que c'est pas une campagne qu'on a mis en place de façon globale, alors que vers le public, ça nous fait prendre à cœur de dire
ça représente peut être beaucoup plus de pubs dans un bien.
Ça représente beaucoup plus de pubs en passé, ça veut dire que tu n'as pas besoin de terrain pour ça. Juste en bien, ça suffit. En fait, quand on dit, vous avez quelque part, si on est capable à un autre mode d'élevage, c'est comme en faire changer de métier. Parce qu'en dehors des points communs qui sont deux, je pense que éleveur de poules en cage et éleveur de poules avec son accès de l'air, c'est pas du tout la même gestion de pas les confrontations des mêmes problèmes, c'est pas le même développement du terrain, des bâtiments, etc.
On invite les gens à acheter du code zéro bio quand on sait qu'on va consommer comme des œufs. Et du coup, alors en fait, c'est des hangars de 500 mètres carrés pour la nuit, c'est ça, 3000 poules et 6 poules par mètre carré, et 1000 poules. Donc en fait, on peut sans erreur dire que le bio, c'est juste un peu mentir au niveau de l'eau. Donc c'est la même.
Parce que même quand on est à l'extérieur, et c'est vrai qu'on peut être 16 par mètre carré dans une cage, au sol dégagé, quand même avoir un accès extrêmement à pouvoir attraper. Il y a quand même, je pense, au niveau de poule, il y a une différence qui est importante à ce moment-là. Mais c'est clair que dire moins pire, c'est absolument pas dangereux.
Donc si on passe moins pire que le code 0,2, on passe aux petites familles qui vendent des œufs et des œufs.
Ils s'appelleront comment ces œufs-là? Voilà, c'est de quoi on
parle. C'est ça que je vais demander.
Les vaches traditionnelles, enfin, pas traditionnelles, comment ça peut s'appeler ces œufs?
Oui, mais il y a encore un fermier. C'est débuté aussi la question de
nos rapports. Quand elles vendent plus, qu'est-ce qu'on fait?
Il y a plein de questions éthiques qui se posent quand même par rapport à les œufs.
Est-ce que dans ce genre de campagne, avec l'objectif affiché d'éradiquer les cages, t'as pas peur que ça bloque au niveau de ça va éradiquer les cages pour un tiers d'œufs qui sont en barquette, ce que voient les gens.
C'est ce qui se passe en Belgique actuellement.
Et que pour les autres,
c'est pour ça qu'il y a une campagne qui continue sur les
gros produits. Donc cette seconde campagne, cette seconde phase de la campagne, va être infiniment plus difficile que la campagne.
Oui, en même temps, je pense qu'on peut rendre visible dès la première phase de la campagne, mais là c'est vrai qu'on n'est même pas en négociation avec les grandes surfaces. Pour l'instant, je pense qu'en état des interlocuteurs valables, on ne fait pas beaucoup de pression sur. On ne sait pas faire entendre notre bord en fait sur la part des grandes surfaces. Et c'est là où nous avons créé un réseau pour pouvoir être présent un peu partout devant les grandes surfaces de façon à pouvoir dire que la question animale c'est une question qui compte et les gens qui s'engagent pour le faire. Alors qu'aujourd'hui, mis à part la tournée de quelques personnes qui relayent au niveau local, c'est vrai qu'on est relativement absent. Enfin, les grandes surfaces, elles vont se passer. Plus on pourra avoir des personnes sur le terrain, plus on pourra mettre des objectifs qui sont importants parce qu'on aura les moyens de développer des choses. Ça se verra progressivement. Aujourd'hui, ça a l'air juste de faire des idées qui.
Mais quand les grandes surfaces ont banni les œufs code 3 du rayon des œufs. Après, pour les œufs, pour que ce soit plus les grandes surfaces,
si, quand même, enfin, les grandes surfaces, elles sont quand même pas mal interlocutrices parce qu'elles sont les grosses consommatrices. Donc, elles peuvent dire à un machin, je pense qu'elles restent quand même des interlocutrices privilégiées, mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il faut contacter aussi les producteurs. Mais c'est pas, enfin, elles sont d'accord sur la consommation. Il y a aussi la PNAF et aussi l'IPDF. Et là où on est en train de développer en une heure que passe cette campagne. Et c'est l'IPDF, en fait, les grosses entreprises qui sont en industrie.
Alors, En tout cas, c'est plus la seigneur que le bio. Parce que
refuse cette norme-là par principe.
Quel est l'impact des cages sur les parcs de poules?
Alors, il peut y avoir de photos de la voilà, les poules qui sont, enfin, on voit sur les pattes, elles sont dépendantes, etc. Ah oui, je ne l'ai pas dit, les poules pondeuses, elles ont, surtout celles qui sont élevées en cage, elles ont un squelette très fragile. Il y a beaucoup de cassures d'ailes, de cassures de pattes, notamment au moment de les ramasser pour les emmener à l'abattoir. Il y a énormément d'os cassés, d'ailes cassées. Parce que pas de lumière et pas de mouvement possible. Alors qu'il y a beaucoup moins de fractures observées sur les poules qui ont un peu plus de place et qui sont des.
Quand on n'est pas très connaisseur de ces éléments-là, c'est vraiment intéressant.